Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Éthique. Tout de suite, une interview réalisée par Pascal Marcaggi.
Pauvreté, pollution, industrialisation au charbon avec du nucléaire en prévision, c'est le cocktail très modérément écolo de l'Inde, sous peu le pays le plus peuplé au monde. Eh bien, c'est sans compter la société civile, nous dit Bénédicte Magnier, journaliste à l'AFP et qui sonde l'Inde depuis 20 ans.
Ça fait plus de 20 ans que je sillonne le pays. C'est vrai, je prends mon baluchon et puis je vais un peu au hasard. Je me renseigne avant, je sais qu'il y a des gens intéressants à voir, des initiatives à voir. Une initiative, souvent, on amène une autre parce que les gens qui agissent comme ça sur le terrain en connaissent beaucoup d'autres. Et puis on va d'un état indien à un autre, on va du Tamil Nadu au Kerala, on va du Kerala au Rajasthan, et on se rend compte qu'il y a plein de gens qui agissent beaucoup sur le terrain. Et c'est passionnant de rester plusieurs jours sur place et de parler avec ces gens, de découvrir ce qu'ils font, de se rendre compte qu'il y a quand même un dynamisme incroyable de la société civile. C'est-à-dire que tout le monde, qu'on soit paysan, qu'on soit une femme au foyer, qu'on soit un jeune étudiant, qu'on soit le postier du coin, le petit commerçants du coin, on a tous des problèmes à résoudre et ils les résolvent, c'est-à-dire qu'ils mettent la main à la pâte. Et effectivement, il y a beaucoup d'initiatives écologiques comme ça qui sont prises par des gens ordinaires. C'est ce que j'appelle le génie des gens ordinaires. En Inde, on trouve des solutions avec trois fois rien, avec trois bouts de ficelle, on fait quelque chose, on fait une éolienne, on fait un système pour recueillir l'eau de pluie et ça change, ça apporte des solutions simples, accessibles, faciles à mettre en œuvre et qui changent la vie de dizaines de milliers de gens.
C'est ce que Bénédicte Magnier appelle le Made in India, cette véritable tradition de la société civile indienne de transgresser, de passer outre le pouvoir pour inventer des solutions qui à chaque fois s'appliquent à des milliers de personnes.
Ça a toujours été vrai en Inde, c'est une tradition en quelque sorte. La société indienne a toujours été débrouillarde, toujours mobilisée, toujours militante. Il ne faut pas oublier que c'est un pays qui a été colonisé, donc qui a pendant longtemps résisté aux colonisateurs. Les colons anglais par exemple ont commencé par déforester massivement le pays, et face au déboisement, il y a déjà eu au 19e siècle des mobilisations pour sauver les forêts et les bois précieux notamment qui étaient exportés vers l'Angleterre. Cette mobilisation écologique s'est poursuivie. Dans les années 70, il y a eu des programmes massifs de déboisement. On a vu des femmes entourer les arbres de leurs bras pour arrêter les tronçonneuses, et ça a marché. Elles ont arrêté les tronçonneuses et en plus ça a inspiré d'autres mouvements. Les tree huggers, ceux qui embrassent les arbres avec leurs bras, ça s'est développé dans d'autres pays. C'est une tradition. La société indienne n'a jamais vraiment compté sur les pouvoirs publics, n'a jamais rien attendu des pouvoirs publics. Elle s'est toujours mobilisée elle-même. C'est d'ailleurs le pays qui compte le plus grand nombre d'ONG au monde. Il y a plus de 3 millions d'ONG, il y en a 3 fois plus que le nombre d'écoles. En Inde, on sait que c'est un pays où il faut trouver les ressources par soi-même pour trouver des solutions. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a toujours été vrai, qui se développe certainement actuellement avec plusieurs phénomènes conjugués. D'abord, la montée de la crise écologique. Il ne faut pas oublier que l'Inde, c'est un pays qui se développe très vite, qui connaît un développement industriel concentré sur 2 décennies, alors que chez nous, ça a pris 2 siècles. Les dégâts écologiques sont rapides, ils sont assez étendus. Donc la crise écologique favorise évidemment la mobilisation. Il y a aussi l'arrivée d'une jeune génération, et il ne faut pas oublier que c'est un pays très jeune, l'Inde, la moitié du pays a moins de 25 ans. L'arrivée de cette vague de jeunes, dont beaucoup sont éduqués, favorise la mobilisation. Il y a une génération qui est consciente des problèmes de son pays, consciente des problèmes de la planète et qui a envie de changer le pays et d'agir concrètement pour l'environnement, mais pas seulement, pour aussi des causes sociales. Et puis, il y a le fait que comme il y a beaucoup d'ONG, il y a aussi beaucoup de fondations, d'entreprises qui financent ces ONG, donc il y a des financements d'associations qui sont assez faciles à obtenir et ça favorise aussi bien sûr la mobilisation. Donc la société indienne reste très militante à la fois dans la résistance aux projets industriels polluants. Par exemple, il y a beaucoup de résistance contre les barrages qui entraînent de la déforestation, il y a beaucoup de résistance à l'implantation de mines de charbon qui polluent l'environnement, il y a beaucoup de résistance aux centrales nucléaires par exemple, mais il y a aussi une société civile qui, à côté de ces résistances, propose des alternatives, des modes de développement différents. C'est ça que j'ai voulu observer dans ce livre.
Dans ce livre, Made in India, le laboratoire écologique de la planète, c'est aux éditions Premier Parallèle. Et parmi les exemples de prise en main de la société civile par elle-même, cela se passe au nord-ouest de l'Inde, dans l'état aride du Rajasthan. Les habitants du district d'Alwar ont pris pelles et pioches pour creuser des canaux et ainsi recueillir l'eau de pluie. Résultat, de l'eau potable pour 700 000 personnes et un paysage digne de la Normandie.
C'est dans le nord de l'Inde, l'Inde, c'est une petite région du Rajasthan. Le Rajasthan, c'est l'état le plus aride de l'Inde. Pour vous donner une idée, 60% des terres agricoles sont en voie de désertification. Mais dans cet état très aride, qui est vraiment un état fait de poussière jaune, où on a beaucoup de mal à faire pousser les choses par manque d'eau, les habitants d'un petit district près de Jaipur ont changé totalement la donne, simplement en créant un système de recueil des pluies. Donc ils ont pris des pelles, des pioches, ils ont creusé des canaux, ils ont creusé des bassins de rétention, en tout 10 000 structures qui ont permis de remplir rapidement les nappes phréatiques avec l'eau des pluies, ce qui a donné de l'eau potable à 700 000 personnes très vite, ce qui a permis aussi de faire renaître des rivières qui avaient simplement disparu, et ce qui a permis d'irriguer naturellement les sols, ce qui a dopé l'agriculture évidemment. Et aujourd'hui, les agriculteurs de ce petit district du Rajasthan sont les plus riches de l'État. Ils arrivent à faire 3 récoltes par an, simplement parce que la terre est de nouveau irriguée et qu'ils ont replanté les arbres, qui permet de garder l'eau dans le sol. Le système racinaire des arbres est bénéfique pour conserver les réserves hydriques souterraines. Alors, ce qui est intéressant dans cette initiative aussi, c'est que non seulement elle a ramené la prospérité dans cette petite région agricole, mais c'est que aujourd'hui, les habitants ont totalement repris en main leur territoire en gérant eux-mêmes l'eau dans des assemblées villageoises, partout, dans tous les villages, des petites assemblées démocratiques où tout le monde siège à égalité, hommes, femmes, haute caste et basse caste. Chacun a une voix égale et donne son avis sur l'entretien du réseau, sur ce qu'il faut faire comme culture pour économiser l'eau dans les champs, sur le fait qu'il faut reboiser encore tel et tel territoire. Et alors, ce qui est fou, c'est que quand on arrive dans ce territoire, quand on le visite, on est frappé de la métamorphose. Ce petit territoire est une oasis agricole. Quand on entre là, on est frappé par le nombre d'arbres. Il y a même un système de bocage, on se croirait en Normandie. Il y a des champs entourés d'arbres, il y a des rivières, il y a des points d'eau partout, ce qui contraste incroyablement avec le reste du Rajasthan, qui est encore une fois une étendue de plus en plus frappée par les désertifications. Donc ça, c'est intéressant de voir comment, avec une solution simple, on peut résoudre le problème fondamental de centaines de milliers de personnes, qui est la pénurie d'eau.
C'est de faim que les habitants d'une région du Telangana au centre de l'Inde souffraient. Et là, les paysannes ont pris les choses en main jusqu'à créer une radio communautaire et faire des films pour serrer le bon grain de livrer les bonnes semences des OGM.
Il y a une autre initiative que je cite dans ce livre qui est une petite région qui se situe dans l'état du Telangana au centre de l'Inde. Cette petite région était frappée dans les années 80 par la faim, par la malnutrition, parce que les champs ne donnaient plus rien. Les semences hybrides, les semences modernes achetées par les paysans ne convenaient absolument pas à la terre, ne convenaient pas au climat. Donc les champs ne donnaient plus rien, les paysans ne faisaient plus qu'un repas par jour. Les paysannes, les fermières de cette petite région ont décidé de tout changer, de revenir aux semences locales qui, elles, sont adaptées depuis des siècles au climat de cette région. Elles ont créé des réserves de semences locales et un système de prêts coopératifs, c'est-à-dire on se prête mutuellement les semences qu'on n'a pas et on rembourse en nature après la récolte. Elles se sont aussi redistribuées les terres entre elles, c'est-à-dire qu'elles ont mis en valeur des terres qui n'étaient plus cultivées, puisque de toute façon, on n'arrivait plus à cultiver avec ces semences modernes. Elles se sont entraidées pour remettre en valeur ces terres. Elles sont passées à une agriculture bio, une polyculture bio qui utilise les synergies naturelles des plantes entre elles et des plantes et des arbres, puisqu'elles ont replanté des arbres. Et le fait de passer à cette polyculture bio basée sur les semences locales a totalement transformé là aussi la région. Cette agriculture a donné des rendements si élevés qu'elles ont rendu la souveraineté alimentaire en très peu de temps à ce territoire et leur a permis de produire des surplus qui sont aujourd'hui exportés sur les marchés bio des grandes villes de l'Inde. En plus, ces femmes ont tiré une légitimité du fait d'avoir ramené la prospérité agricole dans cette région et elles auto-gouvernent, elles ont instauré aujourd'hui une auto-gouvernance des villages dans cette petite région, c'est-à-dire qu'elles se réunissent toutes les semaines dans des sanghams, des assemblées villageoises où elles prennent ensemble démocratiquement des décisions pour le bien commun des habitants. Elles ont créé des crèches, par exemple, elles ont ouvert des crèches, elles ont créé des écoles du soir pour adultes, elles ont banni les sacs plastiques de la région pour réintroduire des sacs en jute, qui sont moins polluants, évidemment, qui sont biodégradables. Elles ont ouvert une radio communautaire, elles ont réalisé des films contre les OGM et sur les semences locales pour montrer à quel point les semences locales peuvent sauver l'agriculture, des agricultures qui étaient sinistrées par les semences France moderne. Voilà, c'est vraiment une question d'empowerment, de reprise en main totale de son territoire par ses habitants, et en l'occurrence, c'est des femmes. Alors, ça transgresse beaucoup l'ordre social, parce que c'est des femmes qui gouvernent les villages comme ça, de manière démocratique. Évidemment, les femmes, d'habitude, ont une position sociale inférieure, traditionnellement en Inde, donc c'est une transgression vis-à-vis de l'ordre social, mais c'est intéressant de voir à quel point on peut changer, d'une part, l'agriculture. Passer à une agriculture bio permet de nourrir des zones densément peuplées. Elles ont quand même sauvé plus de 200 000 personnes de la faim. Et aujourd'hui, 5 000 fermes, seulement 5 000 fermes, ce qui est peu en Inde, permettent de produire suffisamment de nourriture pour toute une région et même d'exporter de la nourriture bio vers les villes. Ça, c'est un exemple qui est à suivre et qui montre que l'agriculture bio peut nourrir le monde. Si on reproduit de multiples fois cette expérience locale, on se rend compte qu'on pourrait nourrir le monde avec l'agriculture bio.
200 000 personnes, c'est l'effet laboratoire de l'Inde, des solutions qui marchent à des échelles ô combien plus importantes que les nôtres.
Ce qui est intéressant en Inde, c'est pour ça que j'appelle ce pays une forme de laboratoire écologique de la planète, c'est que tout de suite, dès qu'on a des expériences écologiques qui marchent, et beaucoup marchent, c'est ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, ces expériences tout de suite transforment la vie de dizaines de milliers de personnes ou de centaines de milliers de personnes. Tout de suite, on est à grande échelle en raison de la densité de population en Inde et ça a une valeur de démonstration. C'est en ça que c'est un laboratoire, c'est-à-dire qu'on élabore des expériences qui marchent et qui, par leur simplicité et leur facilité à être mises en œuvre, sont facilement transférables à d'autres pays, d'autres continents. D'ailleurs, un certain nombre de ces initiatives sont partagées déjà avec plusieurs pays d'Afrique. Donc ce qui est intéressant, c'est l'effet laboratoire, c'est de montrer que ces expériences marchent et qu'on peut tout à fait, nous, s'en inspirer. Quand on parle, par exemple, du recueil de l'eau qui a permis de sauver l'agriculture locale dans le Rajasthan et de régénérer des terres qui étaient totalement désertifiées, desséchées. On se demande pourquoi on ne le fait pas nous-mêmes dans nos pays où tous les étés on connaît des restrictions d'eau. On peut très bien prélever de l'eau pour l'agriculture, c'est ce qui se fait là-bas. Mais on régénère la ressource, on régénère les nappes phréatiques simplement en recueillant les pluies. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas en France? On peut se poser la question. Il ne se poserait plus dans ce cas-là la question des restrictions d'eau tous les étés en France.
Made in India, le laboratoire écologique de la planète, beaucoup d'initiatives à découvrir dans ce travail de terrain de la journaliste Bénédicte Manier et cette idée à méditer que la société civile indienne, pétrée de traditions, a parmi celles-ci de ne pas trop compter sur l'État une valeur sûre, preuves à l'appui.
C'était une interview réalisée par Pascal Marcaggi.